Bienvenue dans les podcasts de Ciel et Espace. Aujourd'hui, nous allons aborder l'observation du ciel au télescope en compagnie d'Emmanuel Baudouin, astronome amateur que nous connaissons bien à Ciel et Espace puisqu'il collabore beaucoup à la revue. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, observer au télescope, la première question qui me vient, c'est finalement, qu'est-ce que ça apporte en plus par rapport aux jumelles, à l'œil nu? Quelles sont les parties de l'univers qui sont accessibles? Est-ce qu'on a accès à tout?
Absolument, on a accès à tout l'univers.
C'est formidable.
Avec un télescope. Ah ben, oui, oui. Y compris avec un petit télescope, hein, c'est ça qui est le plus intéressant peut-être pour commencer, hein, notamment avec les grossissements qui sont accessibles avec les instruments d'astronomie qui ne sont pas accessibles aux jumelles par exemple. On a de très nombreux détails sur la Lune et les planètes. Hein, par exemple, si on prend quelques planètes principales, on peut voir évoluer les phases de Vénus, hein, un peu comme les phases de la Lune. On peut voir quand la planète Mars est en opposition, donc quand elle est assez proche de la Terre, on peut voir des détails sur la planète Mars, même avec un assez petit télescope.
Quels détails, par exemple?
Alors, par exemple, on peut voir les calottes glaciaires au pôle de Mars. Si on a un télescope un petit peu puissant, on peut même voir évoluer... Un petit peu puissant, c'est-à-dire lors d'oppositions favorables, 150-200 mm de diamètre, hein. On peut voir, on peut suivre l'évolution des calottes glaciaires... Mars, on peut voir fondre ou se reformer les calottes de Mars, on peut voir des formations sombres à la surface de Mars, on peut voir des tempêtes de sable, on peut voir l'atmosphère martienne évoluer.
Alors, vous parliez de la Lune tout à l'heure. Sur la Lune, c'est quand même l'objet le plus proche, 380 000 km. Qu'est-ce qu'on peut voir? Quelle résolution, en quelque sorte, on obtient sur la Lune avec une petite lunette?
À une petite lunette de 60 mm de diamètre, on voit déjà des détails d'à peu près 5 km de diamètre.
Donc s'il y a un cratère de 5 km, on le voit.
Voilà, on le voit.
C'est un petit point, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Ça peut être un petit point, ça peut être... oui, c'est ça, oui.
Et avec des télescopes un peu plus gros, qu'est-ce qu'on voit en plus, par exemple, sur la Lune, pour rester sur la Lune?
Alors on va voir des cratères de plus en plus fins à mesure que le diamètre augmente. Mais il n'y a pas que les cratères sur la Lune, il y a des failles, il y a des petites failles droites, il y a des petites failles tortueuses, il y a des montagnes, il y a des petits dômes volcaniques. Il y a des mers, il y a énormément de choses à voir sur la Lune et à voir de soir en soir avec un éclairage différent. Donc c'est un spectacle qui est toujours, pratiquement toujours nouveau.
Alors il y a la Lune, il y a Mars, on en a parlé, il y a d'autres planètes. Quelle est la planète qui est la plus fascinante à regarder dans un télescope?
Alors, pour une personne qui n'a jamais regardé le ciel, découvrir Saturne et ses anneaux, c'est quelque chose vraiment qui peut déclencher une passion à vie. C'est quelque chose d'extrêmement pur, d'extrêmement beau. C'est une vision tout en relief du système solaire. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment fasciner. Bon, par contre, c'est un monde qui est moins en évolution, par exemple, que la planète Jupiter, qui est une planète gazeuse.
Ça, c'est la planète
aussi,
des amateurs.
Si c'est la planète des amateurs, il s'y passe souvent des choses. Son atmosphère est en perpétuel changement. Il y a des bandes équatoriales, il y a des petits détails qui apparaissent, qui évoluent. Il y a la tache rouge, bien sûr.
La tache rouge, c'est?
La tache rouge, c'est un cyclone géant, en fait, dans son atmosphère. Donc, il y a d'autres taches plus petites. Il y a des détails vraiment... quel que soit le diamètre de l'instrument que l'on possède, on va avoir des détails intéressants à observer et en évolution.
Sur Jupiter, il se passe toujours quelque chose, on va dire, puisqu'il voilà. Y a ces satellites qui tournent autour, qui passent devant, qui passent derrière. C'est observable à la lunette.
Oui, le balai des satellites galiléens est observable dans la plus petite lunette d'amateur. Les télescopes, les possesseurs de télescopes de plus de 200 mm peuvent même voir la surface des satellites de Jupiter. Donc c'est une planète vraiment fantastique.
Alors toutes ces observations-là sont possibles grâce au grossissement du télescope qui est de l'ordre de entre 20, 100 ou 200 fois, on va dire. C'est l'un des avantages du télescope par rapport aux jumelles et à l'œil nu, évidemment. Quel est l'autre avantage d'un télescope? À quoi ça sert, hein?
Alors la deuxième chose, c'est qu'il collecte des photons. Hein. Il collecte des photons, donc il collecte la lumière, d'autant plus que son optique est grande, un peu comme une bassine va collecter d'autant plus de gouttes d'eau que son diamètre est grand. Donc un télescope va permettre de voir des objets beaucoup plus faibles que l'œil ne peut le faire, donc va collecter beaucoup plus de lumière. Hein. Si l'œil nu ne peut pas distinguer d'étoiles plus faibles que la magnitude 6, une petite lunette de 60 mm peut observer des étoiles jusqu'à la magnitude 11. Donc c'est pour... pour parler plus concrètement, ça veut dire des astres 100 fois moins lumineux.
D'accord. Alors, 100 fois moins lumineux, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup plus d'astres qui apparaissent, en quelque sorte.
Ça veut dire, par exemple, qu'un amas ouvert qui aurait été simplement une tache floue dans des jumelles, 10-50, va être résolu entièrement en petites étoiles individuelles. Ça veut dire qu'une nébuleuse diffuse qui était pratiquement imperceptible dans des jumelles va pouvoir dévoiler éventuellement des nuances de luminosité sur sa surface. De même pour les galaxies. Ou à partir de, bon, les galaxies avec des télescopes, par exemple, de plus de 300 mm, donc qui sont des télescopes déjà assez puissants, on peut commencer à voir les bras spiraux des galaxies.
Alors, en dessous de 300 mm, pour les galaxies, on voit pas les bras spirales, c'est ça, hein?
On voit pas les bras spiraux, mais on peut distinguer déjà, sur certaines d'entre elles, quelques détails comme le bulbe central de la galaxie. Mais effectivement, les bras spiraux sont réservés aux télescopes assez gros. Hein. C'est la différence entre l'observation et la photographie, c'est que en observation, des objets faibles étendus du ciel profond, faut pas s'attendre à voir des choses proches de la photographie, même avec des gros diamètres.
Et alors justement, vous parliez de la photographie, est-ce qu'on voit les couleurs? Est-ce qu'on sur une nébuleuse, est-ce qu'on peut voir les couleurs comme on les voit sur certaines photographies?
Alors, pas sur les objets, pas sur les nébuleuses étendues, pas sur les galaxies. Par contre, il y a un type d'objet un petit peu particulier qui sont les nébuleuses planétaires. Donc, qui sont les coquilles, les enveloppes qu'ont expulsées des étoiles lors de leur mort. Et ces petites nébuleuses planétaires, quand elles sont, il y en a certaines qui sont petites et assez lumineuses. Et sur ces objets en particulier, on arrive à voir assez bien leur coloration verdâtre. Donc, avec un télescope de 150, 200 mm de diamètre, on peut avoir la couleur des nébuleuses planétaires les plus brillantes relativement facilement, oui.
Ce sont les seules taches de couleur dans l'univers?
Non, alors il y a quelques objets, par exemple quelques nébuleuses diffuses comme la nébuleuse d'Orion, qui est un objet assez brillant qui montre également une coloration verdâtre dans les télescopes d'amateurs, hein, plutôt à faible grossissement. Plus on grossit, plus on va perdre cette couleur, on va perdre de la lumière. Et par contre, il y a un autre type d'objets qui sont tout simplement les étoiles, hein, on les a un petit peu mises de côté. 80% des étoiles sont des systèmes binaires. Ce sont les étoiles doubles, et dans les télescopes, grâce au grossissement, on va pouvoir séparer certaines d'entre elles. Donc on va pouvoir voir non plus une étoile comme on voit à l'œil nu, mais deux étoiles. Donc bien sûr, les étoiles restent ponctuelles, quel que soit le grossissement, elles sont beaucoup trop loin pour laisser entrevoir leur surface. Mais en revanche, leur couleur apparaît nettement grâce à la luminosité, et la séparation est possible grâce au grossissement. Donc par exemple, dans la constellation du Cygne, en bout de la constellation du Cygne, il y a une étoile double très connue, qui est l'étoile Albireo. Donc si vous regardez cette étoile à l'œil nu, vous voyez un simple petit point. Et si vous regardez cette étoile dans une petite lunette, avec 30 ou 50 fois de grossissement, vous allez non plus voir un petit point, mais deux petits points collés l'un à côté de l'autre. Donc deux petites étoiles. Et en plus, grâce au contraste de couleurs, vous allez pouvoir distinguer que l'une est plutôt orangée et l'autre plutôt bleutée.
Et c'est un spectacle fabuleux, évidemment.
Bien sûr, c'est un des plus beaux spectacles. Les étoiles doubles sont vraiment un spectacle fabuleux grâce à la proximité des deux astres, à leur nuance de couleur. Et puis, c'est un spectacle qui est accessible même en ville, puisque les étoiles sont des astres très brillants.
Alors justement, ce spectacle, est-ce qu'il est vraiment accessible à tous? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est capable de prendre comme ça un télescope, de s'en servir et de viser des astres?
Alors ça dépend, bien sûr, il faut se familiariser avec le maniement de l'instrument, notamment le maniement de la monture, hein, la partie mécanique qui sert à orienter le télescope. Alors par exemple, il y a les montures équatoriales qui peuvent suivre facilement les astres dans le ciel, mais qu'il faut savoir orienter correctement selon l'axe des pôles. Il y a un autre type de monture qui sont les montures azimutales, qui sont peut-être plus faciles au départ à utiliser, mais qui rendent le suivi des astres plus délicat. Puis il y a, si on veut pas se fatiguer, il y a les montures GoTo, hein, qui sont des systèmes informatiques qui vont pointer et suivre les astres automatiquement. Ça, c'est pour la partie mécanique. Ensuite, la partie optique, il faut bien sûr régler de temps à autre le chercheur. Et si le télescope est à miroir, il faut être capable, pour voir le maximum de détails, d'aligner correctement le miroir. Donc il y a des étapes.
Alors est-ce qu'on peut s'en sortir tout seul?
Alors, on peut s'en sortir tout seul. Il est recommandé, bien sûr, d'aller se renseigner, éventuellement d'apporter son instrument au sein d'un club d'astronomie pour que quelqu'un montre à l'utiliser. Ce qu'il est possible de faire, pour commencer, c'est éventuellement de s'entraîner tout simplement à pointer la Lune. Parce que la Lune, c'est un astre qu'on peut voir même quand il ne fait pas encore nuit, donc on peut manipuler son instrument facilement. C'est un as qui n'est pas dangereux à pointer, contrairement au soleil. C'est un as qui est gros, donc la lune peut être l'une des premières destinations pour apprendre à manipuler son instrument.
Alors il y a peut-être une autre contrainte aussi, c'est l'endroit où l'on se trouve, selon qu'on est en ville ou à la campagne, peut-être il y a des observations qui sont possibles et d'autres qui ne le sont pas.
Alors bien sûr en ville, avec la pollution lumineuse actuelle, on va surtout observer les planètes dont on a parlé, les étoiles doubles, mais également les nébuleuses planétaires dont on parlait également tout à l'heure, qui sont les nébuleuses planétaires les plus contrastées, sont observables en ville. Quelques amas d'étoiles particulièrement brillantes. Donc on est cantonné à la Lune et aux planètes et à quelques objets du ciel profond.
Ça veut dire que pour la Lune, les planètes et ces quelques nébuleuses planétaires, le halo lumineux des villes n'est pas gênant en fin de compte.
Voilà, n'est pas encore gênant. Alors bon, peut-être au rythme auquel s'accroît l'éclairage public, peut-être qu'un jour on verra plus ces objets. Pour l'instant, on les voit encore.
D'accord. Et alors, à contrario, évidemment, si on est à la campagne, il n'y a rien d'impossible, c'est ça ?
Alors, il n'y a rien d'impossible. La Lune et les planètes, et a fortiori, les objets beaucoup plus faibles et étendus, les nébuleuses diffuses, les galaxies deviennent accessibles.
Alors, justement, combien de galaxies, combien de nébuleuses, à peu près, au moins un ordre d'idée, peut-on voir avec un instrument, j'en sais rien, moi, de 100 mm qui est standard, on va dire ?
Ok, quelques milliers de nébuleuses et galaxies. Quelques milliers. Avec un 200 mm, on peut observer pratiquement tout le catalogue NGC, hein, qui est un catalogue bien connu par les amateurs, hein, qui compte pas loin de 10 000 objets.
De quoi occuper de longues années, en fin de compte. Merci beaucoup pour ces quelques conseils et à bientôt.